Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Alors c'était comme ça que les choses arrivent.
Deux types patibulaires pénètrent discrètement dans la cour d'un vieil immeuble. Ils portent des cartons. Quand ils les ouvrent, des nuées de rats s'en échappent et envahissent la cage d'escalier. Des gens commencent à crier dans les étages, puis les deux types prennent la fuite en courant. C'est une des premières scènes du film de Jacques Audiard, « De battre, mon cœur s'est arrêté ». L'histoire de Tom, trentenaire, qui trempe dans les magouilles immobilières de son père, un homme d'affaires véreux, capable donc de balancer des rats dans un immeuble pour faire baisser le prix du mètre carré. Tom, lui, passe sa vie sous son casque, avec de la musique techno à fond, sans sourire. On comprend qu'il évolue dans ce milieu de petites frappes sans vraiment s'y sentir à sa place. Un jour, il croise par hasard l'impresario de sa mère. Elle était pianiste, très douée, elle est morte quand il était petit. Tom décide alors de reprendre le piano. Rigueur, beauté, prélude en ré majeur, il renoue avec l'héritage oublié de sa mère. Ou plutôt, il passe le film à essayer. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, c'est une autre histoire de jeune homme sous influence entre roman d'éducation, drame social et film d'action. Peut-on reprogrammer sa trajectoire, dégoupiller la destinée jusqu'à 14h, Asdine, la vie d'après, par Aladdin Zayan.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors je m'appelle Asdine Kamel, donc aujourd'hui j'ai 32 ans, je viens d'un quartier lyonnais, j'ai grandi dans les pentes de la Croix-Rousse, c'est un quartier populaire en centre-ville à Lyon, où il y a vraiment tout type de classe sociale. Moi je suis issu d'une famille qui est une famille modeste, qui a eu une certaine proximité avec le banditisme lyonnais dans les années 60, 70, 80. J'ai grandi dans une famille qui était très à cheval sur l'éducation. C'est-à-dire que moi, mes parents, mon père, ma mère, étaient très rigoureux sur certaines choses, sur les formules de politesse, sur le fait d'aller à l'école. Vraiment, ils nous ont mis dans un cadre pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que eux avaient été confrontés aux problèmes de criminalité, de délinquance. Et je pense qu'ils voulaient tout faire pour qu'on n'ait pas cette même vie. Donc moi, mon enfance et mon adolescence, elle a été quand même très encadrée. Jusqu'à mes 13-14 ans, où mes parents ont divorcé. On va dire que c'est là que le cocon familial a un peu explosé. Et c'est là où je pense que j'ai vraiment commencé à partir en vrille. Où j'ai commencé à traîner du matin au soir, où j'ai commencé à faire mes premières conneries, où j'ai commencé à faire mes premiers casses, où j'ai commencé à vendre mes premières barrettes de shit. Mais à côté de ça, je restais quand même à l'école. C'est-à-dire que j'ai pas quitté le circuit scolaire. Donc ouais, j'allais à l'école, je faisais mon sport, j'étais dans la boxe, et à côté, je businessais. Moi, je suis resté scolarisé jusqu'à 22 ans. Donc, j'ai eu un BEP électronique, un bac pro et un BTS. Donc, pour moi, c'était normal d'aller à l'école, de se réveiller le matin, d'aller en cours. C'était un cadre qui me plaisait, j'avais envie de le garder. Mais à côté de ça, j'avais aussi envie de faire de l'argent, j'avais aussi envie de voler de mes propres ailes. On va dire que j'avais mon planning. Le matin, je savais que je me levais pour aller à l'école, je sortais de l'école, je prenais mon sac de sport, j'allais au sport, je sortais de mon sport, je prenais ma douche, et puis après, j'allais faire ce que j'avais à faire. Et on va dire que c'était une routine qui s'est installée, comme si, comme cet étudiant qui bosse la journée, qui livre des pizzas le soir. Bon, moi, c'était un peu ça. J'étais à l'école la journée, j'allais à mon sport après, puis après, j'allais faire de l'argent. Après, pendant mes périodes d'examen, on va dire que j'évitais de traîner, j'évitais de me retrouver dans des situations où j'allais être exposé à finir en garde à vue. Parce que je savais que sur ces périodes-là, j'avais pas le droit à l'erreur. Donc pendant mes périodes d'examen, je me prenais mes congés un peu de toutes mes conneries. Voilà, j'ai continué comme ça jusqu'à mes 20 ans. Dire qu'il y a eu un événement qui s'est passé quand j'avais 20 ans, qui a stoppé ça. C'est que je me suis retrouvé en fait à avoir une bagarre avec un videur de boîte de nuit. Dans la bagarre, une semaine après, j'ai appris que ce videur-là, pendant la bagarre avec moi, avait perdu son œil gauche. Donc j'ai été convoqué devant la justice. et c'était une violence volontaire et entraînait une incapacité permanente. Donc le juge avait clairement expliqué que là, je pouvais me retrouver en détention. À ce moment-là, j'étais en BTS et je me suis dit que là, j'avais plus le droit à l'erreur. Le juge m'avait laissé en liberté. Donc là, c'est vraiment un peu à ce moment-là où je me suis dit, bon, j'ai arrêté mes conneries. Donc à ce moment-là, j'obtiens mon BTS quelques mois après. Je commence à travailler. Et là, je commence à rentrer un peu dans un train-train un peu classique. Et on va dire que je tiens cette routine de maison, boulot, sport, dodo pendant un an et demi. Jusqu'à à peu près 22 ans. Et je sais pas où je vais. Et là, je commence à refréquenter des personnes, des amis à moi qui braquent, qui font des choses un peu plus élaborées que ce qu'on faisait avant. Donc, petit à petit, je commence à les fréquenter de plus en plus. Je leur rends des petits services à droite, à gauche sur des petites choses. Et là, je sens que je pars vraiment en vrille. Donc, à ce moment-là, je me dis, je vais aller à l'armée. Ça faisait un petit moment que j'avais le rêve d'intégrer les forces spéciales de l'armée. Donc, je passe le recrutement pour entrer dans un régiment qui s'appelle le 1er PMA à Bayonne. Je passe les examens. Ça se passe super bien. Donc, j'étais un sportif de haut niveau à ce moment-là. J'étais ceinture noire de karaté. Je faisais des compètes, des combats en boxe thaï. J'ai des diplômes, je sais réfléchir. Donc, quand je passe les évaluations, j'ai les meilleures notes de partout. Que ce soit aux épreuves physiques, psychologiques ou psychotechniques. 2 semaines après, j'ai un coup de téléphone. Et apparemment, on m'a pas agrémenté secret défense. Donc, il m'en dit pas plus. Il me dit simplement que je pourrais jamais intégrer l'armée. Je savais pas que si c'était par rapport à la bagarre que j'avais eue avec le videur de boîte de nuit qui avait perdu un œil. Je savais pas si c'était par rapport à des proches de ma famille qui étaient fichés au grand banditisme. Je savais pas si c'était par rapport à une enquête sur moi et par rapport à mes fréquentations. On m'a même pas expliqué le pourquoi du comment. On m'a dit non, vous n'êtes pas agrémenté secret défense, donc vous ne rentrerez jamais dans l'armée. Donc là, je me retrouve dans un sentiment de frustration extrême. J'ai la haine. Et là... C'est le déclic qui fait que je pars en vrille. Là, je quitte mon boulot et là, je commence vraiment à faire des grosses conneries ou à fréquenter des personnes qui font des trucs plus élaborés, si je puis dire ainsi. Juste dans mon immeuble à l'époque, on était 5-6 familles. Dans les 5-6 familles, les 5-6, ça, par la suite, ont été condamnés pour braquage. Bah malheureusement, là où j'ai grandi, le fait d'aller braquer, c'était quelque chose de, entre guillemets, normal. Parce que bah t'avais des gens en face de toi qui l'avaient fait, t'avais un visage sur des choses, en fait. Donc on avait cette facilité à acquérir des armes, à récupérer des véhicules volés, à se structurer. Donc moi, je connaissais des gens qui avaient fait pas mal de gros trucs, c'était des gens qui me faisaient confiance, en qui j'avais confiance. Donc forcément, comme moi, je me suis senti prêt à passer ce cap-là. Ça n'a pas été compliqué pour moi de mettre un pied là-dedans. Donc j'ai des amis qui, à ce moment-là, connaissent des personnes qui sont en train de monter un coup. Bon, je me retrouve à échanger avec eux. Alors, en fait, nous, on se met sur la préparation de ce braquage à peu près en février 2012. Donc on sait déjà ce qu'on veut faire, où on veut le faire, comment on veut le faire. On a déjà tout le matériel à disposition, les armes, les voitures volées. Donc après, c'est plus qu'une question de repérage. Donc on se rend plusieurs fois sur place, on repère un peu les lieux. On sait que c'est compliqué, on sait que c'est en plein centre-ville, on sait qu'on va être confronté à une multitude de problématiques, mais on n'hésite pas. À ce moment-là, on n'a pas froid aux yeux. Donc début mars, on décide de se lancer sur ce projet de braquage. Alors nous, quand on est parti pour braquer cette bijouterie, on avait évalué à peu près à 700-800 000 euros de bijoux à l'intérieur. C'était principalement des montres Rolex, des montres Cartier, il y a des bijoux Chopard, il y avait de l'or, des diamants. Et on a pris la route dans la nuit, je crois que c'était vers 3-4 heures du mat. Donc on monte dans les voitures, on y allait à 3 voitures. On passe les péages tranquillement, on arrive sur place, on gare les 3 voitures. En fait, c'était un peu comme un go-fast. Hein. T'avais une voiture qui ouvrait la route, t'avais la voiture qui avait le matériel au milieu, t'en avais une qui fermait le cortège. Donc on avait fait la route comme ça sur les 400-500 km qui reliaient Lyon à Bordeaux. On s'est rendu sur place. On avait fait faire des masques en latex. Donc c'était vraiment des sortes de vrais faux visages. Là, la bijouterie, à ce moment-là, elle vient d'ouvrir. Il est à peu près 9h30, 10h, je crois. Donc, on rentre à l'intérieur. On sort les armes. On met les gens à terre, on les attache. On vide les vitrines. Tout se passe bien. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le voisin du dessus, qui n'était pas censé être là, était là et a entendu du bruit. Donc il a appelé les forces de l'ordre et on n'a pas eu de bol, si je puis dire ainsi, parce qu'il y avait une patrouille qui était à 30 mètres. Donc ils sont arrivés instantanément en fait. Donc dès qu'ils ont eu le coup de téléphone, ils ont déployé les GPN. Ils étaient devant, donc on était un peu pris au piège, donc on est sorti par derrière. On se retrouve dans une cour sans issue. Donc là, on se retrouve à grimper les étages. On monte sur les toits, on est, je crois, au 5-6e étage. Donc on change d'immeuble, je crois on fait 3-4 immeubles et on redescend un peu plus loin. Et en fait, dès qu'on redescend, on entend, déjà sur les toits, on entendait l'hélicoptère au-dessus de nos têtes. Et quand on descend, on voit que toutes les issues sont bouchées, qu'il y a les flics de partout, qu'il y a le GIPN qui est déployé. Donc là, on est un peu pris au piège à ce moment-là. Donc plutôt que de partir dans une fusillade inutile et d'aggraver le cas, on a interpellé à ce moment-là. Je suis incarcéré le 14 décembre 2012. Donc là, je sais que je pars pour des années assez compliquées. En plus, je suis pas à côté de la maison, je suis incarcéré assez loin. Donc je me dis rapidement, il faut que je me mette dans un état psychologique qui va me permettre d'avancer. Donc j'étais sportif, donc je décide de continuer le sport. Je me dis que j'ai du temps à passer enfermé entre quatre murs, donc autant optimiser ce temps et essayer d'apprendre, lire, emmagasiner des connaissances et passer des diplômes. Donc moi, en fait, ma durée de mandat de dépôt, elle va débuter en mars 2012 et elle va finir en juin 2014, donc date à laquelle je vais être jugé pour les braquages ratés. Donc le procès dure une semaine. L'avocat général demande 12 ans et on est condamné à 8 ans. Donc là, on va dire que je peux enfin me tourner vers un avenir et commencer à envisager des projets. Parce que pendant le mandat de dépôt, tu sais pas combien de temps t'as à passer en prison. Tu sais pas si tu restes 5, 6, 7, 8, 9 ans. Alors que là, voilà, je peux mettre une date de sortie. Donc je peux me projeter à ce moment-là. Donc là, je commence vraiment à idéaliser la sortie. Quand t'es en détention, tu ne veux retrouver que ta liberté. Et tu te dis qu'une fois la liberté retrouvée, tout ira bien. Et t'y crois à ce moment-là, mais en fait, tu te rends compte une fois dehors que c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais bon, à ce moment-là, je suis dans cet état d'esprit. Donc, je suis sorti du centre de détention en février 2016. Donc, pour aller dans un centre de semi-liberté qui se situait à Lyon. Moi, j'étais en fait intégré dans un process de réinsertion par le biais d'une association qui s'appelle le GREP, qui aide en fait les ex-détenus à trouver un boulot. Alors, une fois que j'ai intégré le centre de semi-liberté, j'avais toutes mes journées pour profiter de mes proches, mais aussi et surtout pour trouver un boulot. Donc, quand je suis sorti, je me suis inscrit à Pôle emploi, j'ai déposé mon CV sur différentes plateformes, j'ai envoyé des CV en direct à des entreprises, et c'est vrai que j'ai été confronté à une multitude de refus. La chance que j'avais, c'est que j'avais passé un BTS avant d'être incarcéré. Donc voilà, rapidement, j'ai quand même réussi à trouver un entretien suite à un CV que j'avais déposé sur une plateforme. Par contre, la petite parenthèse, c'est que moi, j'avais menti sur mon CV pour combler les 4 ans et demi durant lesquels j'étais incarcéré. Parce que je savais que si je laissais un trou, et au départ j'avais laissé un trou de 4 ans, j'avais été contacté par aucune entreprise. Et moi, sur Internet, en me googlisant, on trouvait pas mal d'articles sur le fait que j'avais été condamné pour un braquage. Donc aujourd'hui, on sait très bien que les employeurs googlisent beaucoup, donc je me suis servi de mon deuxième prénom. Donc j'ai mis mon deuxième prénom sur mon CV, ainsi que ces fausses expériences durant 4 ans et demi. J'ai été embauché en mai dans une entreprise de sécurité incendie, donc c'était pour intégrer un bureau d'études. J'y suis resté 4 mois parce qu'en fait, au départ, ça se passait plutôt bien les premiers jours. Et rapidement, j'ai senti un environnement qui était, que j'ai trouvé assez malsain. J'avais ressenti une sorte de harcèlement entre différents collaborateurs. C'était un open space où l'ambiance n'était pas forcément saine. Moi, à ce moment-là, psychologiquement, j'étais sensible. J'étais assez fragile psychologiquement et même si ça faisait 4 mois que j'étais dehors, j'avais quand même certains réflexes d'ex-détenu. Faut pas oublier que j'ai évolué pendant 4 ans et demi dans un environnement qui était quand même très violent. Et quand j'étais confronté à une certaine forme de harcèlement de la part de managers ou d'autres collaborateurs, à l'intérieur, je ressentais certaines pulsions. Et j'avais pas envie de récidiver ou de me retrouver dans une situation où, voilà, où je pouvais m'exposer à redevenir violent. Donc j'ai préféré partir. Et c'est là où je me suis posé énormément de questions. Est-ce que je vais réussir à me réinsérer, à trouver un boulot, travailler, payer des impôts, acheter une maison, avoir une vie à peu près normale, ou je vais passer de l'autre côté et peut-être refaire ce que je faisais avant de tomber en prison, me remettre dans ce monde de la délinquance et de la criminalité. J'étais sur une plaque qui était très glissante. Et c'est vrai que moi, dans ma situation, je me suis posé la question de savoir si je devais pas, à un moment donné, me retrouver dans une situation où j'allais être obligé de devoir commettre des délits ou des crimes pour pouvoir retrouver une situation financière, une stabilité. Et moi, ce qui m'a fait me retenir, c'était le mal que j'avais fait à mes proches. Parce que moi, quelques semaines avant ma sortie, j'ai ma mère qui a fait un infarctus. Et je me suis senti coupable. J'avais ma compagne qui était là. Donc, je pense que c'est ces choses-là qui ont fait que je me suis pas mis à me dire, si je retournais dans le deal, si je retournais dans le braquage. J'ai eu 5 entretiens de techniciens. Donc le dernier, je suis allé habiller j'avais emprunté 200 euros à un proche pour m'acheter un beau pantalon, une belle chemise, des belles chaussures. Et je suis allé à l'entretien qui s'est, selon moi, super bien passé. Le cabinet de recrutement m'appelle le lendemain et ils me disent, ils n'ont pas retenu votre candidature pour le poste de technicien, mais ils ont un poste axé commercial à vous proposer. Donc est-ce que ça vous intéresserait? À ce moment-là, moi je suis hyper ravi, je suis content parce que je me dis que ça fait des mois et des mois que je me bats pour trouver un job comme celui-ci. Donc je réponds de manière favorable et je fais un deuxième entretien, cette fois-ci avec le service commercial. J'ai un troisième entretien donc avec la direction régionale qui se passe pareil, qui se passe vraiment bien, je suis à l'aise. C'est un secteur d'activité que je connais bien parce que c'est un secteur qui correspond à mes études. Parce que moi, quand j'étais en bac pro système électronique et numérique, j'étais en fait spécialisé dans la vidéosurveillance, l'alarme intrusion. J'avais fait un BTS aussi là-dedans et de par mes expériences de cambrioleur, braqueur, etc., je connaissais le monde de la sécurité. C'était un monde qui me passionnait parce que je l'ai vécu des deux côtés. Et au bout de ces 3 entretiens, on m'appelle, on me dit écoutez, on a retenu votre candidature, bienvenue dans la société, est-ce que vous êtes disponible dans 10 jours? Donc je réponds que oui, à ce moment-là, j'intègre l'entreprise. Comme pour toute intégration d'entreprise, on m'envoie un listing de documents à transmettre. Donc carte vitale, numéro de sécurité sociale, et tout en bas de la liste, on me demande mon casier judiciaire. Je suis un peu dépité à ce moment-là. Je me dis que j'ai trouvé le job de mes rêves, un job que je cherche depuis que je suis sorti, un poste qui a l'air de vraiment de me correspondre, mais on me demande mon casier judiciaire. À ce moment-là, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je leur dis la vérité? Mais si je leur dis la vérité, je me retrouve dans ma situation de précarité où je vais encore continuer à galérer, ou j'essaie de trouver une solution. Donc j'en parle à un ami, il me dit, écoute, moi, il n'y a pas de problème, si tu veux, je te fournis un casier. Blanc comme neige. Je réfléchis peut-être 2 jours, mais je me dis que je peux pas cracher sur l'occasion, que de toute manière, si je délivre un faux casier judiciaire, c'est pas pour aller commettre une escroquerie, c'est pas pour aller, voilà. C'est vraiment dans une optique qui est saine, c'est juste pour travailler. Donc je transmets le casier, puis ça se passe bien, et personne ne se rend compte de rien. Donc moi, à ce moment-là, j'intègre l'entreprise en tant que chargé de clientèle, et au bout d'un an, je passe cadre. L'année d'après, je passe cadre à un échelon supérieur et on me propose un plan de carrière. Donc moi, à ce moment-là, je suis épanoui, je gagne 5-6 000 euros par mois. J'ai une voiture de fonction, je me sens bien, je me construis en fait. Moi, c'est 3 ans où en fait, je me construis, où je retrouve une stabilité, où je pars en vacances, je profite de la vie, je fais des cadeaux à mes proches, où je me sens bien, où je me sens utile en fait, je me sens utile dans la société, je comprends le business, je me dis c'est top, c'est ce que je recherchais, c'est ce dont j'avais besoin en fait à ce moment-là. Alors en fait moi j'étais commercial, j'étais ingénieur commercial, donc c'est moi qui m'occupais du relationnel avec les clients. Donc en fait quand il y avait un site qui se construisait, quand il y avait un déménagement de société ou autre, moi j'étais là pour leur trouver une solution, contrôle d'accès, vidéosurveillance, alarme intrusion. Donc je sécurisais des sites où on entreposait plusieurs millions d'euros de valeur. J'étais amené à sécuriser certains sites qui travaillaient sur des projets nucléaires. J'étais amené à travailler sur des sites classés Seveso. Donc oui, je me retrouvais à travailler sur des choses un peu sensibles. Alors en fait, moi, un jour, je reçois une convocation sur mon agenda Outlook de mon directeur. Donc, chez un client. C'était un hôtel Ibis. Bon, je me dis peut-être que c'est pour faire du business. Donc, à ce moment-là, j'y vais. J'y vais, rendez-vous 9h, j'arrive et bizarrement, je vois le directeur de l'éthique qui est en face de moi. Et là, en fait, je comprends. Je suis sûr à 99% que bah, y a un truc qui va mal se passer. Donc, je les suis, on rentre dans une salle de réunion et il commence à me poser des questions. Où on me demande, en fait, où j'étais en 2012, 2013, 2014, où on me pose des questions sur moi un peu personnelles. Et en fait, par rapport à ces questions, je comprends rapidement qu'ils ont découvert que j'étais passé par la case détention du jour au lendemain, comme ça. On me convoque, entretien préalable à licenciement, on me demande de me justifier. Moi, j'explique ma situation, pourquoi j'ai fait ça. Malgré mon passé, je faisais partie des meilleurs commerciaux de la société, qu'on m'avait proposé un plan de carrière, chose qu'on ne proposait pas habituellement aux autres collaborateurs, que j'avais eu une évolution comme personne ne l'avait eu dans cette société. J'ai été motivé, ça ils le savaient, je remplissais mes chiffres, ça pareil, ils le savaient. Même mon passé, cette fois-ci, a fait pencher la balance et on a décidé de me licencier. Alors en fait, la société pour laquelle je travaillais a eu le courrier anonyme en juillet 2020 et j'ai eu mon entretien préalable à licenciement un mois après, j'ai été licencié 2 semaines après. Donc après j'ai contacté mes collègues, on allait boire un coup, j'avais des choses à leur dire, on a discuté, etc. Je pense qu'ils ont été peinés pour beaucoup de savoir ce qui m'arrivait. Mais moi, ça m'a pas empêché aujourd'hui de continuer à garder un bon relationnel avec eux, de continuer à échanger avec eux. C'est des personnes que j'ai appréciées et que j'apprécie encore. Et je pense que c'est réciproque. Donc, je vois pas pourquoi quelque chose que j'ai commis en 2012 pour un mode de vie que j'ai eu il y a plus de 10 ans de ça, ça allait pénaliser aujourd'hui mes relations avec des personnes que j'ai rencontrées quasiment 10 ans après. C'est pas parce que j'ai été condamné pour un braquage que je dois être condamné à perpétuité, que je dois être toute ma vie comme ça. Maintenant, je sais que le fait de le cacher m'a pénalisé, donc aujourd'hui, je vais être transparent par rapport à ça. Mais ce qui me permet d'être transparent par rapport à ça, c'est que j'ai acquis énormément de compétences. C'est qu'aujourd'hui, je sais ce que je vaux et je sais ce que je peux construire et apporter. Donc, je me dis que mon passé, c'est mon passé, mais j'ai des choses à apporter. Maintenant, ceux qui veulent pas travailler avec moi parce que j'ai ce passé-là, je me dis tant pis pour eux. Et les autres qui veulent envisager une collaboration, malgré le passé que j'ai eu, tant mieux. Parce que ça, c'est des gens qui, je pense, ont compris que c'est en donnant une deuxième chance, mais une réelle deuxième chance aux ex-détenus, à des gens qui sont passés par la case prison, qu'on pourra faire avancer la société dans le bon sens. Parce que on ne devrait pas être condamné à perpétuité. Et là, on a vraiment l'impression qu'on est condamné pour le restant de nos jours. Moi, pour mon cas, j'étais condamné à 9 ans ferme. J'en ai fait 4 et demi, quasiment 5. Condamné à 150 000 euros de dommages et intérêts, parce que j'avais pas d'assurance, l'assurance qu'il fallait à l'époque. Donc on ressort, on n'a pas d'argent, on n'a pas de situation, mais on nous demande de rembourser des sommes faramineuses. On est découragé de base. Dès que je touchais mes salaires, j'allais retirer mon argent liquide. Je touchais des fois 2 500, 3 000, 4 000, 100 000 euros. J'étais à la banque le jour où je touchais mon salaire, je récupérais tout en liquide. Je payais ma part au fonds de garantie, mais j'avais peur qu'on vienne me saisir l'argent que je gagnais en travaillant. Donc oui, la question de récidiver et de se construire en empruntant un chemin criminel, parce que rien n'est à notre nom, on n'a que de l'argent liquide, etc. Tu te dis aussi, c'est une manière de te protéger. La réinsertion telle qu'elle est mise en place aujourd'hui fait qu'on continue à cultiver ce taux de récidive, et qui dit ce taux de récidive dit un certain nombre de victimes. Parce que les gens, quand ils sortent de détention, ils sont déjà à bout et ils se retrouvent confrontés à la société qui ne les met pas dans des conditions pour leur permettre une réinsertion pérenne et saine.
I won't bash no fucking head in, bust your melon, the felon that fell in the clink, for drunk rebelling, my cell in the joint was breaking point, my lawyer said go, I said fuck you to the warden, I said peace to Bordeaux, roll the blocks just how I left it back then, ask my cousin should I rock these bunny slippers with this Mac 10, Gold 45, what, works every time, and there's no strings attached, just like moonshine, flip it and rip it up as sick as fuck as possible, even though I'm silly drunk and this brain is inoperable, get into the bathroom from the bar becomes an obstacle. Got the keys up in the car like driving drunk is optional. My reputation, manipulation, my stimulation is to drink away my situation and bust your face in, no speculation. But word around the block is Slick Jack is fucking back and you can't fuck with how I rock.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Azdine, La Vie d'Après, un reportage d'Aladine Zayan réalisé par Cécile Lafont avec un petit coup de main de Yaël Mandelbaum. Notre attachée de production, c'est Mélissa Foust et François Bréus, notre stagiaire. Vous pouvez écouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Eyebrows raised and your eyes wide shut. Come dropping vinegar on your deepest cut. My advice to your rappers living life in a rut is to keep this rapper side thing and just shut the fuck up. The wizard snake slid the grave digger. Billy Bat hit a trash kicker with bigger balls than a cat litter. Jack Ripper told you that you can't rap skipper. You'll never get no gigs like a little titty fast stripper. Wax bitter, everything out your mouth stunk like the back house junk. What you talking about, chunk? It's the baddest at this classless rap status. Big bad wolf on campus plus lyrical madness. Massive to see with binoculars and glasses. Look into my eyes and see the universe's blackness. Wrap this string around my finger for remembrance. To hit you with my vengeance on every single day.
Because I can never reach. And an inspiration. Because there's always an element that a possibility is there. There is a light in the end of the tunnel.